Michel Desmurget, vous avez perdu vous-même 50 kilos à la suite de nombreux régimes. Et puis, en étudiant la littérature scientifique, vous en êtes arrivé à la même conclusion parce que votre expérience a été assez longue en la matière. La plupart des régimes sont dangereux pour la santé ?
En fait, j'ai envie de dire que j'ai pris 50 kilos avec tous les régimes que j'ai pu essayer. En fait, j'ai fait comme tout le monde. J'ai cherché un miracle et puis j'ai essayé tous les régimes du marché. Sans succès, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tous ces régimes marchent bien. On perd 10 kilos, puis on en reprend 12. Et puis à un moment donné, j'ai essayé un ultime régime à la mode et j'ai commencé à avoir des problèmes de santé assez sévères. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver une autre solution.
Et là, en tant que scientifique aussi, ça vous a posé quelques questions quand même.
Ouais, j'ai été d'une naïveté totale, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et puis un jour, je me suis dit, il faudrait quand même aller voir ce qui se passe, parce que j'ai quand même des collègues dans les institutions sanitaires internationales qui nous expliquent que ça ne marche pas, mais c'est des choses qu'on entend, mais qu'on ne veut pas vraiment entendre, ou qu'on écoute sans vouloir les entendre. Et donc, oui, j'ai décidé d'aller me taper la littérature, si je peux le dire comme ça, la littérature scientifique, et c'est... Et c'est vraiment une littérature passionnante, c'est une littérature qui est extrêmement riche. Et je crois que les clés pour perdre du poids sont dans cette littérature. Et c'est ce que j'ai réussi à appliquer. Et puis surtout, je crois que cette littérature démontre, mais au-delà du moindre doute possible, que tous ces régimes sont juste inefficaces et parfaitement dangereux.
Et là, Michel Desmurget, donc c'est votre expérience que vous racontez dans ce livre. Vous avez donc décidé d'étudier les effets de nombreux régimes amaigrissants sur l'organisme. Et c'est un long parcours du combattant, visiblement. Et le fait d'être neuroscientifique et de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, ça a été visiblement, incontestablement un plus pour vous, pour perdre du poids ?
Oui, je pense que ça m'a aidé. Et l'idée de ce bouquin, c'est que ça pourrait aussi aider les gens. C'est-à-dire qu'on entend partout... Les régimes, ça marche pas, ça fait des années, des dizaines d'années. Les régimes, ça marche pas, les régimes, c'est dangereux, vous allez reprendre autant de poids. Et puis, tout un tas d'arguments qui vous disent si vous mangez des protéines, vous grossirez pas, passez pas métabolisé, etc. Et à un moment donné, moi, j'ai eu besoin de comprendre en me disant, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a dans la littérature scientifique des éléments qui permettent de corroborer ? Parce qu'on a d'un côté les institutions sanitaires internationales, les chercheurs, les gens qui travaillent sur cette problématique dans les labos de recherche, qui vous disent surtout pas. Et de l'autre côté, vous avez tout un tas de revues ou de médias qui viennent, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais servir la soupe à ces vendeurs de régimes qui viennent nous expliquer qu'ils ont trouvé la martingale, que c'est extraordinaire, ouais. que les chercheurs, que du coup on appelle les affameurs de rats, n'ont rien compris et que vraiment ils sont encore à un statut du savoir préhistorique. Et donc je suis allé pour comprendre. Une fois qu'on a compris pourquoi ça ne marche pas, une fois qu'on a compris ce qui peut marcher, je pense qu'on arrive beaucoup plus facilement à mettre en place les choses. Parce que ce n'est plus une question de « moi, je pense que ça marche et toi, tu penses que ça ne marche pas ». Après, j'ai des preuves évidentes qui montrent que ça marche ou que ça ne marche pas, mais au moins, je sais à quoi m'en tenir.
Et puis, c'est l'expérience, parce qu'évidemment, vous l'avez éprouvé sur vous-même. Et ce qui compte finalement dans un régime, c'est sa durabilité, parce que c'est toujours le problème. On perd toujours du poids en faisant un régime, enfin, très souvent en tous les cas. Le plus compliqué, c'est de maintenir cette perte de poids sur le terme, sur le long terme.
Oui, c'est-à-dire que tous les régimes fonctionnent, indépendamment de leurs préconisations. Mmh. Ils ne fonctionnent pas pour les raisons qu'on nous avance. Un régime hyperprotéiné, il ne fonctionne pas parce que vous mangez plus de protéines. Ça a été testé dans des dizaines d'études chez l'homme et l'animal. Quand vous gardez constant le compte calorique, et c'est un point important, vous pouvez mettre 10% ou 90% de protéines dans le régime. À l'arrivée, c'est exactement la même chose. Il marche parce que des choses aussi bêtes que se peser tous les jours, ou des choses aussi simples que faire attention à ce qu'on mange, ou être obligé de choisir ses aliments dans une liste restreinte ou dans une liste monotone a fortiori, fait que le compte calorique va tomber et vous allez perdre du poids. Et tous ces régimes fonctionnent, mais ils fonctionnent 3 mois. Oui. Et après, c'est une mécanique horlogère digne de nos amis suisses. Ça se retourne et le poids remonte. Et on a des prévalences de reprise de poids qui sont proches de 100% dans tous ces régimes-là.
Oui.
Et ça a été testé. C'est des centaines de milliers d'individus. C'est des méta-analyses de millions de gens.
C'est l'INSERM qui avait fait une publication aussi sur cette question.
C'est l'ANSES qui avait fait une
publication. Qui en arrive à la même conclusion. C'est-à-dire qu'effectivement, on perd toujours du poids et on regagne les kilos.
Les gens font une erreur. On est induit dans cette erreur. Ils pensent que perdre du poids, c'est une question de volonté. Et au début, oui, c'est une question de volonté. Il y a des études qui montrent, qui permettent de quantifier la volonté, l'autodiscipline, ce que vous voulez. C'est très corrélé, par exemple, à la réussite scolaire. La corrélation avec la réussite de ces compétences de volonté, ces compétences volontaires et d'autodiscipline et de faire ce qu'on veut faire volontairement, elle est nulle avec la réussite d'un régime, quasiment nulle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas du tout une question de volonté. Les gens se disent, moi, je suis suffisamment volontaire. Les autres, ils ont raté, mais moi, je vais réussir parce que moi, j'ai de la volonté. Et à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il est génétiquement câblé pour restaurer systématiquement ses réserves de graisse. Et si vous touchez les réserves de graisse et si vous touchez les réserves pontérales du corps, le corps, il va se défendre, mais il va se défendre à un niveau tel que la ligne Maginot va sembler être une aimable taquinerie pour enfants du primaire. C'est-à-dire que tout va se mettre en place au niveau corporel pour vous faire reprendre du poids. Et vous avez beau avoir une volonté de faire, vous ne pouvez pas lutter contre des mécanismes physiologiques. Alors, ces mécanismes, ils sont hormonaux. C'est-à-dire tout le système hormonal va se dérégler dans le sens de vous percevrez mal la satiété et puis vous aurez vraiment une exacerbation des sensations de faim. Mmh. Le système, le corps au niveau périphérique, au niveau musculaire par exemple, va optimiser son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il va faire... Il va faire beaucoup plus avec moins. C'est-à-dire qu'après un régime, si j'ai un jumeau, si je fais 70 kilos, que j'ai perdu, que je reviens de 100 kilos, que j'ai fait un régime, par rapport à mon jumeau qui a toujours été à ce poids, je vais consommer chaque jour 300-400 calories de moins parce que tout le système va être optimisé. Au niveau de l'estomac, on a des capteurs d'extension qui nous disent si on est plein, qui renseignent la satiété. Ceux-là, ils sont inhibés, ils ne renvoient plus leurs signaux. Au niveau cérébral, le système de récompense va s'activer d'une façon absolument énorme en présence d'aliments. Et le système qui nous permet d'inhiber nos réponses va, lui, se désactiver. Et tous ces mécanismes-là, une fois qu'ils sont mis en marche, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ce qui est intéressant, et j'ai fini là, c'est qu'il y a 3 à 4 % des gens qui y arrivent. Et ces gens, ils ont des caractéristiques particulières. Et une caractéristique particulière de ces gens-là, c'est que quand il y a moyen de voir si ces systèmes de défense se sont activés, notamment au niveau de l'optimisation du fonctionnement métabolique, ces gens-là ont eu un régime qui était suffisamment pertinent pour ne pas déclencher ces mécanismes-là. Une fois qu'ils sont déclenchés, vous pouvez toujours, comme le poisson, bouger au bout du fil et remuer la queue. Ça ne marche plus, c'est perdu.
Le sous-titre est un peu racoleur quand même, non ? Est-ce que vous ne cédez pas à la tentation de ces titres qu'on voit fleurir à longueur de temps chez les libraires ?
Le titre, ça a été une vraie discussion avec l'éditeur. Je ne pense pas parce que...
C'est le sous-titre dont je parle.
C'est le sous-titre, hein. Oui, tout
Maigrir
à fait.
Maigrir pour de bon.
Oui, le sous-titre aussi a été largement discuté. Parce que je pense que c'est possible. C'est possible d'y arriver. Le système, il n'est pas parfait. Donc c'est possible... Le système est trompé dans le sens d'une prise de poids et on peut tromper le système dans le sens d'une perte de poids. La seule chose à faire, c'est surtout de ne pas rentrer dans ces régimes-là.
Il faut se peser tous les jours quand même, Michel Desmurgés.
Oui, pour faire une moyenne.
Oui.
Alors, il faut se peser au jour. Alors, il y a plein d'études qui montrent que plus les gens se pèsent fréquemment et les gens qui se pèsent quotidiennement, ils perdent plus de poids que les autres.
Ah bon ?
Et surtout, ils en prennent moins sur la durée.
D'accord.
Il faut se peser pour avoir une idée de l'évolution du poids, il faut effectivement le moyenner parce qu'il y a des fluctuations d'un jour à l'autre. Et puis, je dirais que la pesée quotidienne, elle est aussi un peu malhonnête. Au sens où, quand vous avez fait un excès la veille ou quand vous avez fait un excès le jour même, vous allez rapidement... Alors, ce n'est pas des choses qui vont être pérennes, vous allez le reperdre, mais elles vous alertent. C'est-à-dire que la pesée quotidienne vous permet de rester vigilant. Et contrairement à ce qu'on a pensé ou dit longtemps, ce qui n'était pas forcément idiot, il y a plein d'études qui ont montré que la pesée quotidienne n'avait aucun effet émotionnel négatif en termes d'obsession, de focalisation, etc. Et c'est vraiment une aide... importante. Et pour vraiment faire un régime et pour être sûr qu'on ne sort pas des clous, il faut avoir une idée de l'évolution du poids. Et la seule façon d'avoir une idée de l'évolution du poids, comme le système est fluctuant, c'est de moyenner les pesées sur 10 ou 15 jours.
Alors, Desmurgés, répondez justement. Est-ce que c'est la littérature scientifique qui vous a nourri ?
Bon, elle m'a passionné, nourri, je ne sais pas, mais elle m'a passionné. Et elle m'a passionné parce qu'elle m'a surtout offert une solution à mon problème de poids. Parce qu'on a beau dire, c'est... Certains le vivent très bien, mais au quotidien, c'est parfois difficile.
Ouais. Mais c'est vrai ce que dit Marie Thérion, c'est peut-être ce qui fait votre singularité aussi, le succès de votre entreprise dans cette perte de poids, non ?
Non, alors je crois que ce qui a fait le succès de l'entreprise, c'est que, shooté à la littérature, au moment où j'ai commencé, j'étais sûr que ça allait marcher. Je crois que c'est ça qui a fait le succès. Je n'avais pas de doute quant à l'arrivée, donc ça m'a permis d'être patient. J'ai compris assez vite que la patience, ce n'était vraiment pas une option. C'est soit j'étais patient, soit je réussissais en 2 ans ou 3 ans, soit je me plantais en 3 mois. Donc j'ai choisi de réussir en 3 ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas vraiment... On parle de restrictions, mais tous les aliments sont permis. Je veux dire, à partir du moment où vous comptez en termes énergétiques, Pour perdre 25 kilos, il suffit de virer l'équivalent d'un croissant au beurre chaque jour.
Donc, mais 25 kilos sur le long terme.
Ah oui, sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez, quelqu'un qui vous dit dans un régime, vous allez perdre 25 kilos en 3 mois, fermez le bouquin. Et puis, il vaut mieux ne pas faire de régime que de faire un mauvais régime, parce qu'on n'a pas assez souligné, mais ces régimes-là sont dangereux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il a une marge d'erreur. Brian Wenzing appelle ça très joliment la marge subliminale. C'est-à-dire que le corps, il n'est pas capable d'apprécier les entrées et les sorties caloriques précisément. Mmh. Si vous restez dans cette marge d'erreur, si vous lui enlevez en gros 10 ou 20% des entrées ou des sorties, en augmentant les sorties, il ne va pas le voir. Et s'il ne le voit pas, et c'est vrai de tous les systèmes de contrôle biologique, quand vous tapez doucement dans les réserves de graisse, le corps ne le voit pas. S'il ne le voit pas, il ne se défend pas. S'il ne se défend pas, les défenses métaboliques ne se mettent pas en jeu. Et si les défenses métaboliques ne se mettent pas en jeu, vous avez gagné. Le seul vrai danger d'un régime, ce n'est pas de perdre trop lentement. Il n'y a pas de danger à perdre trop lentement. Le seul vrai danger, c'est à perdre trop vite. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes content parce que vous deviez perdre. Il y a des cours où vous devez perdre 500 grammes et puis vous avez perdu 2 kilos et vous êtes content. Mmh. Et vous signez votre arrêt de mort. Parce qu'à partir du moment où vous tapez trop dans les réserves, le corps, il se réveille. Et ça passe plus à l'as. Et
donc, quand
ça passe
plus à l'as. Donc, il faut être plus malin que son cerveau, en fait, aussi, c'est ça. Hein,
ah, mais un cerveau, c'est une mécanique extraordinaire.
Ben mais, oui, mais parfois, c'est ça qui est difficile.
C'est bête à manger du foin, hein, parfois, un cerveau. C'est-à-dire que on peut vraiment, à partir de les mécanismes qui nous font prendre doucement du poids, on peut les retourner et s'en servir pour perdre doucement du poids. Le cerveau est incapable d'estimer la quantité énergétique que vous avez mangée. Donc, il a des indicateurs indirects. Mmh. Il a le volume. Il a le temps que vous mettez à manger, il a la taille des assiettes, il a la mémoire du repas précédent, il a des effets sur la... Dans un repas, imaginez que je vous donne un bol de M&M's. C'est idiot, un bol de M&M's.
Non, c'est pas idiot.
Et
non.
Dans un bol de
M&M's, non.
Vous avez 6 couleurs de M&M's ou vous en avez 12. Mmh. Et bien, quand vous en avez 12, le cerveau il va falloir tout goûter, mais c'est complètement inconscient et vous allez en manger 2 fois plus.
Voilà.
Si je vous fais des lasagnes aux champignons et si je vous fais des lasagnes à la viande, quand vous demandez aux gens après, les deux ont le même goût, les gens ont la même satiété, ils en mangent autant, et pourtant vous avez coupé 200 calories. Si je vous mets un grand bol de pop-corn ou un petit bol de pop-corn, dans le petit, vous allez en manger 2 fois moins. Donc il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui font que le cerveau, on ne mange pas souvent sur des mécanismes volontaires, on mange sur des mécanismes qui sont des apprentissages, des automatismes. Le cerveau est biaisé sur des mécanismes de priming, etc. Mangez devant la télé et vous mangerez 30% de plus. Juste ça. Moi, le matin, quand je prenais mon petit déjeuner en lisant le journal, je mangeais plus de 1000 calories au petit déjeuner. Quand je le prenais sans le journal, j'en mangeais 250. C'est des mécanismes qui sont ancrés dans le cerveau. Et quand on n'est pas conscient de ce qu'on mange, on mange encore plus au repas suivant et plus tôt. Donc, il y a tout un tas de mécanismes comme ça, mais on peut tromper la mécanique.
Alors, Michel Desmurgés, pour maigrir pour de bon, d'abord ce message de Lico. J'essaye de perdre du poids, dit-il ou dit-elle, en augmentant mes dépenses énergétiques. Je fais du vélo en montant des côtes régulièrement 1 heure par jour. Est-ce que c'est bon pour la santé? L'exercice physique, ça va aussi de pair quand même avec cet effort sur l'alimentation.
Alors, il y a 2 pieds pour perdre du poids, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas excéder, on l'a dit, un certain déficit, sinon le corps s'en aperçoit. Le premier pied, c'est l'alimentation. Vous pouvez diminuer un peu l'alimentation. Et le deuxième pied, évidemment, c'est l'exercice physique. Alors, il n'y a pas besoin de monter un vélo. Enfin, il n'y a pas besoin de... Alors, c'est bien si on peut faire du vélo tous les jours et faire un exercice un peu intense, mais il suffit de marcher. Je prends un exemple tout bête. Moi, avant, pour aller au travail, j'y allais en métro. Ça me prenait 1h10 par jour. Maintenant, j'y vais à pied, ça me prend 1h30. Et je trouve que ces 20 minutes valent. Je suis venu ici à cette émission, j'arrive de la gare de Lyon. J'aurais pu arriver à midi, prendre le métro. Je suis arrivé à 11h et je suis venu à pied. Il y a plein de moyens il y a plein de moyens de gratter au cours du quotidien 200-300 calories sur les dépenses. Et franchement, ça fait, quand vous les cumulez de jour en jour, bah, ça finit par faire beaucoup.
Michel Desmurgés, on peut faire rapidement changer nos habitudes à notre cerveau, justement, sur les habitudes alimentaires, les goûts que nous avons aussi. Hein, vous dites que ça change très très vite. Vous qui détestiez les brocolis, je crois que vous arrivez à en manger maintenant. Ouais, ça, c'est un message fort qu'il faut faire passer.
Non, mais c'est vrai que nos habitudes alimentaires, sont, comme les maritériens, sont très ancrées dans l'enfance. Malgré tout, il y a un certain nombre d'études récentes qui montrent qu'on peut agir dessus, on peut les changer. Mmh. On peut les changer dans un laps de temps relativement raisonnable, en 2-3 mois. Il y a des études qui montrent, par exemple à l'IRM ou en neuroimagerie, qui montrent que quand on vous supprime un type d'aliment, par exemple les aliments très sucrés en sucre raffiné, au début, vous avez une réaction extrêmement intense, des systèmes d'appétence. Et puis, au bout d'un moment, vous avez moins de réactions. En gros, on mange ce qu'on aime. Mais je dirais qu'au niveau des études de neuroimagerie, ce qui est récent, ce qui nous montre, c'est qu'on finit par aimer ce qu'on mange.
Oui.
C'est-à-dire que si vous mangez au fur et à mesure, si vous supprimez un certain nombre d'aliments particulièrement obésigènes, au début, vous aurez un petit manque.
Voilà.
Et puis petit à petit...
En introduisant d'autres aliments,
vous aurez un goût plus développé pour les autres. Donc oui, on peut changer ses habitudes.
Jean-René nous demande ceci. Décrivez-nous, monsieur Desmurgés, ce que vous mangez. Quelle est votre journée type? Alors ben oui, ça nous intéresse quand même, concrètement. Alors, sur les dernières minutes qui nous restent... La vie d'un démurgé, ça ressemble à quoi quand on veut plus reprendre du poids?
Ben, c'est plutôt sympa. Déjà, je vous l'ai dit, je vais bosser à pied.
Ouais.
Donc déjà, tous les jours, je marche. J'ai une consommation calorique relativement importante. Compte mes dépenses physiques, 2 fois par semaine, je vais faire du sport.
Et votre assiette?
Mon assiette, je mange normalement. Alors,
vous mastiquez beaucoup ou pas?
Oui, j'essaie de manger plus lentement.
C'est
un facteur important. J'essaie de prendre des petites assiettes. J'essaie de pas me resservir.
La taille des assiettes est très importante.
J'ai essayé de me conformer à ce qu'on sait. Il y a des aliments, les légumes, les fruits. Enfin, il n'y a pas de secret. Les légumes, les fruits, les féculents. J'essaie d'éliminer les aliments particulièrement obésigènes.
Mmh.
Et voilà. Mais il n'y a pas de restriction massive ni de refus de certains aliments.
Vous avez quand même dit qu'il fallait enlever le croissant tous les jours, hein, tout à l'heure.
L'équivalent d'un croissant.